Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 21h à Gaza, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à une ce soir, une trêve enfin à Gaza. Elle entrera en vigueur dimanche, après 15 mois d'une guerre terriblement meurtrière. Israël et le Hamas ont accepté ce soir un accord de cessez-le-feu de libération des otages. Tous les détails dans un instant dans ce journal avec Daniel Valot. Et parmi les premières réactions, l'Union européenne se félicite. Donald Trump de son côté met déjà en garde. Le président américain élu dit qu'il ne laissera pas Gaza devenir un refuge pour terroristes. Le front ukrainien, lui, loin d'une trêve. La Russie a lancé aujourd'hui de nouvelles attaques massives contre le secteur énergétique de Kiev. Enfin, à Los Angeles, toujours pas de répit dans les incendies, avec des vents violents qui pourraient bien faire repartir les foyers toujours actifs autour de la ville. Des scènes de liesse ce soir à Gaza, après 15 mois de conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts. Israël et le Hamas ont donc approuvé ce soir l'accord en discussion à Doha en vue d'un cessez-le-feu et d'une libération des otages dans la bande de Gaza. Daniel Valot, cet accord négocié sous la médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte, que contient-il précisément ?
Alors, selon les informations dont nous disposons, le Hamas doit libérer 33 otages dans un premier temps. De son côté, Israël va libérer plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, y compris des détenus condamnés à de longues peines. Les otages israéliens seront libérés par petits groupes, en commençant par les enfants et les femmes. Dans une deuxième phase, un autre groupe d'otages sera libéré et il devrait s'agir cette fois de soldats et d'hommes en âge d'être mobilisés. Parallèlement à cet échange entre Israël et le Hamas, l'accord prévoit un arrêt des hostilités, un cessez-le-feu initial de 6 semaines avec un retrait progressif des forces israéliennes du centre de la bande de Gaza et le retour des Palestiniens déplacés vers le nord du territoire. Durant cette première phase qui doit débuter ce dimanche, une zone tampon sera maintenue par l'armée israélienne sur une profondeur de 800 mètres de Rafah au sud jusqu'à Beit Hanoun au nord. Si tout se déroule comme prévu, une seconde phase entrera en vigueur au bout de 6 semaines qui devrait aboutir au retrait complet des troupes israéliennes. Resterait alors à régler d'autres questions concernant l'après-guerre, bien sûr la reconstruction et le sujet le plus difficile, celui de la gouvernance du territoire.
Daniel Valot du service international de RFI. Et ce soir, Israël a dit que des questions restent à régler, que l'État hébreu espère conclure la nuit prochaine. De son côté, le président américain élu Donald Trump prévient qu'il ne laissera pas Gaza devenir un refuge pour terroristes. À noter également ce soir, des pourparlers sont en cours pour ouvrir le passage frontalier entre l'Égypte et Gaza à l'aide d'urgence internationale, alors que l'enclave palestinienne se trouve dans une situation humanitaire dramatique. Toujours à la une de l'actualité, la Californie qui reste en alerte rouge alors que les vents soufflent toujours très fort sur Los Angeles. Une semaine après le début des incendies qui ont déjà fait 25 morts, détruit des milliers d'habitations et forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer. De nouvelles bourrasques de vent sont attendues aujourd'hui encore qui pourraient faire repartir, c'est la crainte, les foyers toujours actifs, notamment à Pacific Palisades. De nouvelles évacuations pourraient également être ordonnées ce soir. Alors, que faire face à ces méga-feux qui se multiplient tout autour de la planète, rendus plus fréquents et dopés par les effets du réchauffement climatique? S'ils apportent des destructions localement, comme on le voit à Los Angeles, ils ont également des conséquences mondiales, Simon Rosé.
Il est encore trop tôt pour déterminer les effets précis qu'auront les incendies de Los Angeles, mais en matière de méga-feux, les scientifiques ont suffisamment d'exemples pour affiner leurs recherches. La fréquence de tels événements a doublé en à peine 20 ans. Parmi eux, l'été noir australien de 2019-2020 fait figure de triste référence. Plus de 18 millions d'hectares ravagés, près de 500 morts et 3 milliards d'animaux brûlés. Mais le désastre n'a pas été que local. La NASA a ainsi pu suivre le devenir des panaches de fumée. Ils ont fait le tour de la Terre. Les premières conséquences sont sanitaires. sanitaire, c'est bien documenté. Ces fumées sont chargées de particules fines et de suie. Leur concentration est logiquement plus élevée à proximité des foyers, mais leurs effets délétères peuvent se faire sentir à plusieurs centaines de kilomètres. Ces fumées vont loin, elles vont haut également, jusqu'à 35 km d'altitude. Elles interagissent avec l'atmosphère et peuvent localement détruire l'ozone. Enfin, les mégafeux ont un effet sur le climat mondial par les énormes quantités de dioxyde de carbone qu'ils dégagent. En Australie, toujours, ils en avaient émis autant que le Japon en un an. C'est un cercle vicieux. Les incendies contribuent ainsi au réchauffement climatique qui les favorise en retour.
En Europe, toujours pas de trêve sur le front ukrainien. La Russie intensifie sa campagne de bombardement massif contre les sites énergétiques de Kiev. Avec une nouvelle salve, pas moins de 120 missiles russes et des attaques aux drones ce matin contre les infrastructures électriques et gazières dans tout l'ouest de l'Ukraine. Tentative d'affaiblir le moral de la population en plein cœur de l'hiver, dénonce Kiev, alors que les Ukrainiens utilisent le gaz naturel pour se chauffer et pour cuisiner. Face à la menace russe, l'Allemagne, elle, s'autorise à abattre les drones suspects dont les survols se sont multipliés ces derniers mois au-dessus d'infrastructures sensibles, alimentant bien sûr les inquiétudes sur des risques de sabotage ou bien encore d'espionnage. À Berlin, la correspondance de Pascal Thibault.
La base américaine de Ramstein, les centres d'entraînement de soldats ukrainiens, des sites de la Bundeswehr, mais aussi un parc chimique, il ne se passe quasiment pas une journée sans que des drones indésirables ne survolent des lieux sensibles en Allemagne. Il s'agit d'un véritable danger, particulièrement pour nos infrastructures critiques. Nous ne nous laissons pas intimider et nous faisons face à la menace actuelle, a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. La puissance de certains drones leur permet d'être téléguidés depuis l'étranger. La Russie est souvent suspectée dans le cas de la guerre hybride menée notamment contre l'Allemagne. La police n'est pas forcément équipée pour attaquer ces drones et la Bundeswehr ne peut que les obliger aujourd'hui à atterrir, les repousser ou les menacer. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres doit permettre à l'armée allemande d'abattre des drones à l'avenir si la police n'est pas en mesure de le faire. Il n'est pas encore sûr que le texte puisse être adopté par le Parlement avant les législatives du 23 février. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et toujours en Allemagne, une première aujourd'hui, le ministère de la Défense allemand a décidé de suspendre son activité sur X, ex-Twitter, déplorant eh bien, la difficulté d'avoir un échange objectif d'arguments sur ce réseau. À l'approche de l'investiture de Donald Trump lundi prochain, eh bien, les départs de la plateforme du milliardaire Elon Musk se multiplient. En France, près de 90 syndicats et grandes associations dont la Ligue des droits de l'homme et Greenpeace ont annoncé quitter également le réseau social. En Europe, plus de 60 universités allemandes et autrichiennes ont également déjà annoncé leur retrait, s'inquiétant des dérives antidémocratiques de cette plateforme. En France, sur le front politique, au lendemain du discours de politique générale de François Bayrou, l'opposition n'est pas enthousiaste face au projet du Premier ministre de conclave de 3 mois pour réviser la très controversée réforme des retraites. Concrètement, il s'agirait de réunir l'ensemble des partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales en un même lieu afin de mettre sur la table toutes les pistes pour que la réforme soit socialement plus juste tout en restant équilibrée. Et l'enjeu est tel, et bien que les politiques ne sont guère optimistes quant à la réussite de cette nouvelle méthode de travail. Charlotte Urien-Tomaca.
Officiellement, du côté de l'exécutif, on est confiant sur l'issue des négociations. Sophie Prima, porte-parole du gouvernement.
On fait confiance aux partenaires sociaux. Donc moi, je ne préempte pas un échec des discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux sont extrêmement bien placés pour négocier. C'est eux qui connaissent les mécanismes. Donc nous leur faisons confiance et nous parions sur la réussite de ces négociations.
Mais un ministre en première ligne sur les retraites le confiait à quelques journalistes. Il reste circonspect quant à la réussite de ce conclave. Et à droite, on a aussi du mal à y croire. Philippe Gosselin, député LR.
Moi, ce que je crains, c'est qu'on suscite beaucoup d'espoir et que l'espoir soit vain et qu'en réalité, dans 3 mois, on ait suscité beaucoup de crispation et qu'on se retrouve à la case départ.
Sans surprise, la France Insoumise estime qu'il s'agit d'une tactique de la part du Premier ministre pour gagner du temps, acheter le PS et ne croit absolument pas à une réussite possible. Antoine Léaumont, député LFI.
C'est de la poudre aux yeux qui est envoyée pour essayer d'obtenir des socialistes qu'il n'y ait pas de censure. C'est de l'enfumage.
S'il paraît donc difficile que les négociations puissent aboutir, il sera néanmoins compliqué pour les groupes politiques de faire l'impasse sur ces tractations.
Il est 20h10 à Paris, ainsi s'achève ce journal. Je vous rappelle la principale information de la soirée. La trêve est signée à Gaza. elle entrera en vigueur dimanche prochain.